Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Dans l'histoire des sciences, la présence des femmes ne se résume pas au seul nom de Marie Curie. Nous nous souvenons cette année d'une autre grande figure, la physicienne Cécile de Witt-Moret, née en 1922. Juste après la guerre, elle fonde une sorte d'université d'été pour les jeunes scientifiques afin de contribuer à l'effort de reconstruction. C'est l'école de physique des Ouches qui fait venir en Haute-Savoie des chercheurs du monde entier. Elle contribue ainsi à redynamiser la discipline en France en formant une nouvelle génération de physiciens. Certains anciens vont même décrocher des prix, des récompenses comme le Nobel. Et parmi ces anciens, il y a Serge Haroche, membre de l'Académie des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un ancien de l'école de physique des Ouches. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles années vous avez fréquenté ce centre de formation, puis comment se passait un séjour là-bas ?
J'ai été la première fois dans cette école en 1975 et j'y suis retourné plusieurs fois dans les années 80-90 et jusqu'à assez récemment. C'est une école qui organise des sessions d'été tous les ans, sur un sujet donné, portant sur un aspect particulier de la physique théorique, qui s'est d'ailleurs étendu à d'autres domaines. Il y a des sessions également dans le domaine de la biologie, par exemple. Mais je crois qu'il faut revenir à l'histoire pour comprendre l'importance de cette école d'été, et revenir au personnage, à Cécile Moret de Witt. En fait, elle a fondé cette école en 1951. Elle n'avait pas 30 ans à l'époque, donc ça indique un peu le dynamisme et l'ambition de cette jeune chercheuse de l'époque pour créer ce genre d'école qui manquait à la formation des jeunes scientifiques français. On sortait donc de la Deuxième Guerre mondiale. La France avait été, pour des raisons évidentes, écartée du mainstream, du domaine principal, enfin de l'évolution de la physique à cette époque. Et la physique a beaucoup évolué à cette époque. C'est l'époque du triomphe de la physique quantique, du triomphe de la physique nucléaire, du début de la physique des particules. Et les physiciens français avaient été largement tenus éloignés de ces développements par la guerre en particulier. Et lorsque la guerre est finie, lorsque les étudiants sont revenus dans les universités, il était clair qu'il manquait une formation dans ces domaines nouveaux. Et Cécile de Witt a compris qu'il serait utile pour les étudiants français et de façon plus générale pour les étudiants européens d'avoir un centre, un endroit où on pourrait faire venir les grands scientifiques de l'époque. Et je parle de gens comme Pauli, Fermi, vraiment les plus grands physiciens de l'époque qui venaient enseigner à des étudiants ou à des jeunes chercheurs la physique moderne. Je n'ai pas connu cette époque, mais mon maître Claude Cohen-Tanoudji s'est formé à la physique, en particulier dans cette école, dans les années 50. Et il m'a toujours raconté l'éblouissement qu'il a marqué lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des Alpes. En fait, l'école des Ouches se trouve au pied du Mont Blanc, dans la vallée de Chamonix. Et il s'est retrouvé avec ces physiciens qui étaient pour lui des dieux, enfin des personnages absolument extraordinaires, qui faisaient leurs cours, avec lesquels il était capable d'échanger, de discuter après les cours. C'est une école qui, à l'époque, était tenu dans des conditions assez spartiates. C'était des chalets qui étaient mal chauffés. Bon, c'était l'été, mais quand même, le confort était minimal. Les gens travaillaient toute la journée. Il y avait des cours, mais également, après les cours, il fallait les réviser. Il fallait être capable de comprendre ce qui avait été dit dans la journée, de faire les exercices et les problèmes qui étaient posés par ces professeurs. Et donc, il y avait un esprit d'émulation et de travail extraordinaire. Un autre avantage par rapport aux autres écoles qui se sont créé par la suite, c'est que c'était des écoles longues qui permettaient d'approfondir un sujet sur une période d'un mois. Lorsque je suis arrivé à la physique moi-même dans les années 60, j'avais entendu parler de cette école d'une façon un peu mythique. Et dès que j'ai pu, la première année où le sujet qui a été repris dans cette école portait à nouveau sur l'optique, j'ai décidé d'y participer. Et il s'est trouvé d'ailleurs que j'avais une trentaine d'années, qu'on m'a proposé non seulement de participer, mais d'être le directeur de cette école. Le directeur, c'est la personne qui invite les conférenciers, qui les choisit, qui leur propose de venir, qui discute avec eux les conditions, le type de cours qu'ils y feront. Et donc ça m'a donné l'occasion, à cette époque-là, d'entrer en contact avec un grand nombre de physiciens importants de la physique, de l'optique quantique, ce qu'on appelait alors l'optique quantique. Et je me souviens de cette école dans l'été 1975, que je co-dirigeais avec un ami qui malheureusement a disparu, quelques années après, Sylvain Liberman. Et donc, nous deux, nous avons dirigé cette école, nous avons organisé les cours, nous avons participé aux discussions. C'était extrêmement fécond, très, très intéressant. Il y a une autre école qui nous suivait, il y avait deux sessions cet été-là, l'école qui nous suivait portait sur la physique fondamentale, la physique, la théorie des champs. Et à cheval entre les deux écoles, j'ai pu rencontrer les participants à l'autre école et également établi des liens avec des physiciens travaillant dans un autre domaine. C'est également un aspect de la physique aux ouches, c'est que l'interdisciplinarité, le fait qu'on s'intéresse à des sujets différents. Et à l'époque où j'ai fait ça, en 1975, Cécile De Witt avait déjà n'était plus la directrice. Elle continuait à venir, à s'intéresser de façon très près à la façon dont l'école était organisée, mais elle n'était plus la directrice.
Quel souvenir avez-vous de ce personnage ?
Cécile De Witt, c'était quelqu'un d'extrêmement, comme je le disais, de très dynamique, de très déterminée également. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle avait une certaine autorité, c'est-à-dire que le nombre de participants à l'école était limité. C'était une quarantaine de participants parce que la salle de cours était petite. Il y a des souvenirs qui sont restés très marqués du fait qu'elle avait l'autorité de refuser des participants. Et quand les participants essayaient de venir malgré le fait qu'ils n'avaient pas été admis à l'école, elle était extrêmement stricte. Et il y a eu quelques épisodes un peu forts qui se sont produits à cette occasion. Mais c'était quelqu'un qui était également très curieux de la physique en train de se faire, qui avait des tas d'idées. Je n'ai pas vraiment beaucoup interagi avec elle, mais c'était un personnage remarquable. C'est remarquable de penser qu'une jeune chercheuse, à l'époque où, en principe, on s'intéresse surtout à sa propre recherche, avait compris le rôle social, c'est-à-dire pour la recherche française, qui était la création et le maintien de cette école au cours des années. Elle a joué un rôle politique, entre guillemets, au sens noble du terme, en arrivant à dégager des crédits. Elle a obtenu une participation financière, en particulier de l'OTAN, parce qu'un certain nombre de chercheurs, en particulier des chercheurs américains qui s'intéressaient à cette école, avaient participé à l'effort de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale et étaient impliqués dans des organismes comme l'OTAN, des organismes scientifiques, et ont contribué au financement de l'école des Ouches.
Pour vous, quels sont les fruits de cette école ?
Les fruits, c'est des générations de chercheurs qui ont été formés à la physique moderne, à la physique quantique en particulier. Je pense à la génération de Claude Cohen-Tanoggi, Pierre-Gilles De Gennes aussi a été dans cette école dans les années 1950, et les générations suivantes. Et donc, c'était vraiment un élément essentiel pour former ces chercheurs et pour accompagner le développement à partir des années 60-70, ce qu'on appelait les DEA, les diplômes d'études approfondies, dans lesquels cet enseignement est également délivré dans les universités. Donc à partir des années 60-70, le rôle des Ouches est devenu plus un rôle d'accompagnement et de perfectionnement d'un enseignement qui était fait par ailleurs. Mais dans les années 50 et au début des années 60, son rôle était vraiment fondamental parce qu'il n'y avait pas d'autre enseignement de ces matières organisées de façon rationnelle.
Eh bien, un grand merci Serge Haroche. Je rappelle que nous fêtons cette année le centenaire de la physicienne Cécile De Witt-Morette qui a donc fondé cette école des Ouches. Merci et à bientôt.
Merci.